11 novembre 2008. Une dizaine de personnes est arrêtée ce matin-là au village de Tarnac en Corrèze et ailleurs en
France. Demain que s'ouvre en correctionnel le procès du groupe de Tarnac, 3 semaines d'audience après un feuilleton judiciaire de 10 ans.
C'est l'opération Taïga.
Voilà la fameuse épicerie de Tarnac.
Jugée pour dégradation sur des voies de chemin de fer.
Et cette communauté de quelques dizaines de militants qui continuent de se retrouver au magasin général.
Et les gens sont dans une incrédulité totale.
Les personnes qui sont arrêtées sont accusées de faire partie de la mouvance anarcho-autonome. Le village est bouclé.
Pourquoi ils sont venus vivre ici ?
Les habitants sont peu nombreux à accepter
de s'exprimer sur le sujet.
Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai ça. D'ailleurs, des habitants concernés du plateau de Mille Vaches ont décidé d'aller traîner leurs bottes dans le tribunal de grande instance de Paris. Nos envoyés spéciaux suivront donc de très près le procès de l'affaire dite de Tarnac du 13 au 30 mars. Pour vous tenir informés, retrouvez-nous du mercredi au vendredi, après la rediff du magazine de 12h30, pour un récit au jour le jour de ce que nous aurons vu et entendu pendant ce procès. Parce que les blaireaux du plateau ne lâchent pas l'affaire, rendez-vous sur les ondes de Radio Vassivière et en podcast sur le site de Radio Vassivière.
Hier, mardi 20 mars, on est de retour à la capitale pour suivre le procès. Et cette semaine, on est obligé de se lever bien tôt pour être sûr de rentrer dans le tribunal. Car la juge a décidé de rajouter des matinées d'audience. Alors ouais, on n'est pas encore bien réveillé et on se demande un peu ce qu'on fait là. Dans les toilettes de l'appartement où on est hébergé, je bloque sur une phrase en anglais et sur une étrange affiche. Avec mon meilleur accent, on fait ce qu'on peut, ça donne ça. We live in a world ruled by fictions of every kind. The fiction is already there. The writer's task is to invent the reality. C'est une citation de James Graham Ballard, un écrivain anglais mort en 2009. En français, j'ai l'impression que ça pourrait donner quelque chose comme on vit dans un monde gouverné par des fictions de toutes sortes. La fiction est déjà là. Le rôle de l'écrivain, c'est d'inventer la réalité. J'ai suivi un peu cette affaire dite de Tarnac depuis bien des années. On se dit que les policiers, c'est peut-être bien des sacrés écrivains. Et la justice dans tout ça, alors ?
En fait, on est hyper tôt, hyper en avance. Pas de justice. Sauf véhicule de police, attention double sens, sauf véhicule de police partout.
C'est un cadre rigide, voilà, qui est établi par en haut, sans... Enfin, voilà, ça, c'est le même cadre qu'à l'école, oui.
Et du coup, là, cette semaine, on a eu des heures de colle, ce qui disait qu'ils se sont fait rajouter des matinées.
Oui, voilà, on s'est fait coller, ouais. On n'a pas été sages et on s'est fait coller. Il y a un peu moins de monde, j'ai l'impression, mais aussi surtout le fait que les rangs des journalistes puissent être ouverts au public, surtout que là, il y a 4 journalistes, c'est plus simple pour rentrer, c'est quand même moins désagréable, quoi. Enfin, si ça n'avait tenu qu'à la juge, je pense que les bancs seraient restés vides. Ça donne un petit air de victoire qui est agréable. Je sais pas, là, j'ai l'impression qu'ils étaient bons tous cet après-midi. La juge demande à Ildune et Julien pourquoi est-ce que les flics n'ont pas bidonné le PV de telle ou telle manière, comme si c'était à eux de répondre. Là, c'est à la défense d'apporter la preuve que les tubes ne pouvaient pas être là. Enfin, c'est toujours une espèce de truc renversé, là, comme ça, où il s'agit de se mettre dans la tête, des flics ou d'apporter des preuves qu'on n'était pas là. Enfin, comment, c'est pas possible, quoi.
Les audiences ont commencé à 9h30 le matin et se sont terminées tard dans la soirée, avec une petite pause à midi et à 18h. Alors c'est très court pour s'échanger des impressions. Mais le soir, on arrive à se retrouver à quelques-uns et on refait le match.
Moi, je suis arrivé l'après-midi. Première heure d'audience pour moi. J'ai jamais suivi vraiment un procès au long cours, tu vois, dans un tribunal correctionnel, encore moins des assises, etc. Encore moins sur une affaire qui, à l'époque, est partie sur des affaires de terrorisme. Encore moins une affaire où il y a quasiment 8 de mes amis, ou presque amis, qui sont à la barre. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai été plongé dans la fameuse journée racontée par le PV 104, c'est-à-dire la nuit de filature plutôt, qui suit deux des prévenus autour des voies. Et la façon qu'a la juge et aussi la défense d'avancer dans la journée, c'est avec, en se basant sur des pièces qui sont annotées par des lettres et des chiffres. Donc c'est un côté comme une bataille navale, c'est-à-dire que dans la journée, c'était entendre D104, D1623, A1, A01, Mar 1, Mar 2, Mar 3, Mar 4, Mar 5,
T2,
T5. Donc pour expliquer, T2, T3, T4, ce sont les noms des policiers qui ont fait la filature. Mar 1, Mar 2, Mar 3, Mar 4, ce seraient les pêches faites dans la Marne pour rechercher des tuyaux en caoutchouc, en PVC qui auraient servi à mettre les crochets. On a des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui correspondent à des situations possibles d'agents des renseignements autour des ponts. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Bref, mais ni les avocats, ni ceux qui se défendent, ni les juges, ni le procureur ne font, prennent le temps d'expliquer à chaque fois ce qu'il y a derrière cette pièce. Donc on a parfois une bataille navale, c'est l'impression qu'on a eue, entre une juge qui pose des questions, la défense qui se défend et le procureur qui relaie la thèse policière. C'est assez pénible et en fait tout le monde s'en fout quand on regarde le public qui assiste au procès, donc essentiellement des soutiens. Tout le monde s'en fout de savoir qui était près de la voie. Parce qu'on sait que les trains qui ont été débranchés suite à la pose des crochets ont été revendiqués par ceux qui luttent contre des états nucléaires. Et en tout cas là, c'était contre le transport de déchets nucléaires qui allaient de l'usine de La Hague jusqu'à Gorlébonne, les fameux trains castors. Oui, en plus, on se fout de savoir qui était proche de ces voies dans la nuit du 7 au 8 novembre. Après, on comprend bien que la défense doit se défendre, parce que certains qui sont derrière la barre sont accusés de lourdes charges s'ils sont jugés comme ayant mis ces fameux crochets. Mais la question de savoir si c'est eux ou pas, pour la majorité du public, et même peut-être pour la presse, pas si important que ça. En tout cas, pour nous, amis, elle n'est pas importante. Et ce qu'on peut se dire, c'est que la question, elle échappe. C'est-à-dire la question de savoir pourquoi il y a eu des crochets sur ces caténaires, jamais, dans cette journée d'audience, elle n'est apparue. De remettre les actes en regard du contexte, du fond et de son intention, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce qu'il n'y a personne qui, dans cette enceinte de tribunal, peut revendiquer ce geste-là. On est d'accord. Sauf à quelqu'un du public qui se lèverait et qui dirait, écoutez, tout ça est une grosse farce. Arrêtons là les frais de passer des heures. Hein. Ce qui a été ouvert en fin de journée est beaucoup plus intéressant.
Un truc qui était
savoir c'est pourquoi, après 10 ans d'instruction, pourquoi donc en 2008, il y a plus d'une dizaine de gens qui sont inculpés pour peut-être des dégradations autour des voies de SNCF. Et alors qu'il y a eu pour les trois quarts d'entre eux et la plupart d'entre eux des non-lieux et des relaxes, il y a toujours un groupe qui est présenté comme homogène, présenté par les services de police comme un groupe constitué autour de Julien Coupa. Pourquoi cette fiction-là demeure alors que les faits qui ont été reprochés aux gens mis dans ce groupe-là sont tombés? Pourquoi c'est encore présent à cette audience et devant la juridiction?
Est-ce que ça fait pas, moi ça me fait penser à un truc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire, on fait un procès politique sans parler de politique en fait? Parce que tout l'enjeu là c'est de dénoncer cette espèce de construction policière qui veut construire un groupe, comme on dit, et en même temps qu'aurait des intentions malveillantes, et en même temps le fond de ces intentions n'est jamais discuté. Nous on aimerait voir un procès où ce soit le nucléaire qui soit mis en accusation et les politiques migratoires par exemple pour reparler de...
Mais un procès politique ou un procès de rupture, c'est effectivement tu renverses l'accusation. Le procès n'est pas fini. Effectivement, on était dans le marais, ou en tout cas, cette bataille navale un peu abscon. Mais c'est pas fini. Et la semaine précédente, il s'est joué, semble-t-il, je n'ai lu que la presse, et j'ai eu quelques témoignages, mais l'essentiel, c'était plus que la presse, que la question de pourquoi des gens qui devaient répondre à des questions... Pourquoi nous devions, nous prévenus, devrions répondre à vos questions, Madame la juge? Eh bien, on vous pose la question et on vous dit qu'on ne veut pas répondre à la question. Donc il y a eu quand même un début de mise en question de ce procès. Ce qui était moins le cas quand il s'agit de bataille navale, et peut-être qu'il s'est ouvert en fin de journée.
Moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même un truc qui est tenu par la défense, systématiquement quand même, de renvoyer, en tout cas par Assouz, par Julien, par Mathieu un peu moins, en tout cas principalement par Julien et par Assouz, de maintenir en tout cas un climat permanent, de toujours dévier en tout cas les réponses sur le fait de faire un procès en fait à l'instruction, de faire un procès en fait sur les modes opératoires en fait des gens de la SDAT, etc. Et ça, ils le font constamment. Et la juge, en fait, l'a très bien noté. Elle dit d'ailleurs que Monsieur Coupa, c'est votre procès et non celui des gendarmes, enfin des flics qui vous ont suivi. Donc elle le formule. Ça a été redit aussi que ça faisait deux fois qu'il faisait des sons de morale, en tout cas des sons d'instruction à deux reprises, et que ça a été noté. On lui a demandé de se calmer. Et il y a vraiment un jeu d'obturation en tout cas sur cette défense là, enfin, sur cette méthode là en tout cas, ils renvoient ça à un agacement et une déviance de leur part par la défense et non par quelque chose en fait à prendre en compte. Du coup, ce qui fait que la juge revient systématiquement quand il y a des réponses un peu trop longues, qui revient en fait sur cette stratégie-là, à dire « Ah, mais en fait, vous n'avez plus que le sujet du complot, ou en tout cas, vous n'avez plus que le complot comme stratégie de défense. »
C'est ça qui me faisait penser, enfin ce que tu viens de dire me fait penser à ça, c'est que moi j'ai entendu deux fois aujourd'hui se référer à la théorie du complot. Il me semble qu'elle l'a cité peut-être les journées d'audience précédentes, la semaine dernière. Et moi j'ai assisté aujourd'hui au fait qu'elle reproche, la juge reproche aux prévenus d'utiliser la théorie du complot. Mais ce que mettent en avant les plus bavards des prévenus, là Mathieu et Julien, ce sont des explications et des raisonnements qu'on apprend en première année de sociologie. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui font qu'on peut dire que des journalistes police-justice sont proches de magistrats parce que tous les jours, ils ont à travailler ensemble. Et dire ça, et c'est un exemple qui a été donné par un des prévenus, dire ça, c'est cultiver la théorie du complot, selon la juge. Étonnant, alors que il ne s'agit juste de décrire des mécanismes structurels, c'est comment des agents dans une société fonctionnent entre eux.
dire que, oui voilà, je l'ai dit, des magistrats deviennent proches de journalistes qui s'occupent de la police et de la justice, c'est évident, et c'est montré par, si on prend un peu le temps, d'un raisonnement sociologique. Et dire ça, c'est participer de la théorie du complot selon la juge.
Voilà donc quelques réactions à chaud de notre journée de mardi. Avec celle-ci, qui me hante depuis mon réveil.
Pourquoi cette fiction-là demeure ?
Nous aussi, on se raconte des histoires. Mais elles sont quand même vachement moins flippantes, non ? Allez, à demain.
11 novembre 2008. Une dizaine de personnes est arrêtée ce matin-là au village de Tarnac en Corrèze et ailleurs en
demain
France.
Demain que s'ouvre en correctionnel le procès du groupe de Tarnac, 3 semaines d'audience après un feuilleton judiciaire de 10 ans.
C'est l'opération Taïga.
Voilà la fameuse épicerie de Tarnac.
Jugée pour dégradation sur des voies de chemin de fer.
Et cette communauté de quelques dizaines de militants qui continuent de se retrouver au magasin général.
Et les gens sont dans une incrédulité totale.
Les personnes qui sont arrêtées sont accusées de faire partie de la mouvance anarcho-autonome. Le village est bouclé.
Pourquoi ils sont venus vivre ici ?
Les habitants sont peu nombreux à accepter
de s'exprimer sur le sujet.
Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai ça. D'ailleurs, des habitants concernés du plateau de Mille Vaches ont décidé d'aller traîner leurs bottes dans le tribunal de grande instance de Paris. Nos envoyés spéciaux suivront donc de très près le procès de l'affaire dite de Tarnac du 13 au 30 mars. Pour vous tenir informés, retrouvez-nous du mercredi au vendredi, après la rediff du magazine de 12h30, pour un récit au jour le jour de ce que nous aurons vu et entendu pendant ce procès. Parce que les blaireaux du plateau ne lâchent pas l'affaire, rendez-vous sur les ondes de Radio Vassivière et en podcast sur le site de Radio Vassivière.